ici Kevin Breton, très heureux de vous retrouver en ce lundi 6 novembre pour une nouvelle émission de Aime la vie. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Je suis bien content de vous présenter cette émission. On a plusieurs beaux invités aujourd'hui au menu. Ben, tout d'abord, pour la portion culturelle de l'émission, il y a Clotilde qui s'est entretenue avec l'artiste Samuel qui va présenter un show entier au coup de cœur francophone en langue des signes québécoise. Également, on va s'entretenir en début d'émission avec Sarah Séné qui s'est donné comme objectif de concilier la déficience visuelle et l'art visuel dans une installation artistique. Il sera également question de sport et de l'organisme Le cœur et les jambes qui offre des services de loisirs en plein air pour les personnes handicapées qui vont notamment aller faire de la randonnée sur le Mont-Royal, des marathons, des triathlons. Clotilde nous a préparé une entrevue avec la porte-parole de l'organisme. Et également, ce sera bientôt la journée mondiale du diabète, qui est une des causes de la cécité chez les 65 ans et plus. Donc, on a cru bon vous en glisser un mot avec Julie Saint-Jean, qui travaille pour l'organisme Diabète Québec et qui est nutritionniste. Tout ça est une chronique dans un instant à Aime la vie. Au Québec, il y a 880 000 personnes qui vivent avec le diabète. C'est environ 10 % de la population. Et de ce nombre, il y en a 250 000 qui ignorent vivre avec cette condition à l'approche de la Journée mondiale du diabète qui va avoir lieu le 14 novembre prochain. On a cru bon s'entretenir avec une nutritionniste, Julie Saint-Jean, qui travaille pour l'organisme Nutritionniste Québec, pour l'organisme Diabète Québec, dis-je bien, et qui est au bout du fil en ce moment. Bonjour, Madame Saint-Jean.
Oui, bonjour.
Donc, ce sont des chiffres qui peuvent faire peur à prime abord. Ce qu'il faut savoir, c'est que, tout d'abord, il y a deux types de diabète différents. Je pense que ce serait important de les distinguer, le type 1 du type 2.
Oui, effectivement. Donc, le type 1, donc c'est anciennement ce qu'on appelait le diabète juvénile. Donc, c'est le diabète souvent qui va être diagnostiqué chez les enfants ou chez les jeunes adultes. Ces personnes-là vont avoir besoin absolument d'injections d'insuline là, pour assurer leur survie. Et ça concerne environ 10 % des personnes diabétiques. Là. Donc,
c'est la minorité parmi les diabétiques.
Oui, exactement. Puis ensuite, nous avons les diabétiques de type 2, donc parfois qu'on appelle aussi le diabète de vieillesse, donc qui touche donc 90 % de la population diabétique et qui, elle, en fait, cette maladie-là va se développer plus tard dans la vie, souvent c'est à partir de l'âge de 40 ans. Et c'est une maladie qui est beaucoup liée, je vous dirais, aux habitudes de vie, au surplus de poids et qui va nécessiter évidemment des traitements, mais qui peut se contrôler par l'alimentation, l'activité physique, mais évidemment, c'est une maladie qu'on peut contrôler avec différents traitements. Donc, dans les deux cas, c'est une maladie qui ne se guérit pas, mais qui se contrôle en ayant des bonnes habitudes de vie et en prenant les traitements qui sont prescrits.
Et est-ce qu'on peut prévenir l'apparition de cette maladie-là en ayant de saines habitudes de vie ou si c'est quelque chose qui est génétique?
En fait, le diabète de type 2, pas le type 1, mais le diabète de type 2, oui, c'est une maladie qu'on peut prévenir ou du moins qu'on peut retarder l'apparition en adoptant de saines habitudes de vie. Donc oui, pour répondre à votre question, il y a toujours une composante génétique là, dans l'apparition du diabète de type 2. Cependant, même si on sait qu'il y a du diabète dans la famille, les études ont démontré qu'en adoptant, comme je disais, des saines habitudes de vie, il y a vraiment moyen de prévenir l'apparition là, de la maladie. Donc, raison de plus là, pour adopter de saines habitudes. Là.
Et ce n'est vraiment pas un problème à prendre à la légère parce que ça peut entraîner des conséquences vraiment graves. Là, je disais sur votre site Internet, ça peut même mener à des amputations. Puis c'est aussi une des causes principales de cécité chez les personnes âgées.
Oui, effectivement. Donc, c'est certain que le diabète, c'est une maladie qui est sournoise, une maladie qui est très sérieuse, qui peut amener effectivement des complications au niveau des petits vaisseaux sanguins. Donc, c'est pour cette raison-là que ça peut atteindre les yeux, les reins. Ça peut amener aussi des problèmes, ce qu'on appelle de la neuropathie, donc l'atteinte des nerfs, entre autres au niveau des membres inférieurs, donc des pieds, des jambes. Et si ça survient, des fois, on peut voir apparaître, par exemple, des plaies qui guérissent mal qui éventuellement peuvent amener à l'amputation. Ça demeure quand même, on voit ça moins souvent qu'à une certaine époque. Somme toute, c'est quelque chose qui peut survenir encore malheureusement de nos jours. Fait que oui, c'est une maladie vraiment qui est à prendre au sérieux.
Vous l'avez dit, la clé donc de la prévention, c'est les saines habitudes de vie, c'est le mot d'ordre. Vous avez lancé par ailleurs l'application Nutrimonde en octobre dernier. C'est la raison pour laquelle on vous a invité aujourd'hui puisque vous êtes derrière ce projet-là. C'est un outil dont vous vous êtes doté pour servir de prévention, mais chez les jeunes enfants.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un projet qu'on avait pour vraiment sensibiliser les jeunes de l'âge scolaire du primaire, je vous dirais, là, qu'on voulait les sensibiliser à la saine alimentation. Donc, on a mis sur pied, c'est ça, un jeu, donc une application web là, où les enfants, dans le fond, on peut s'amuser là à distinguer des aliments de type collation ou dessert, là, puis essayer de faire des meilleurs choix là, parmi les aliments qu'eux, ils connaissent bien, là, qu'ils vont apporter, par exemple, dans leur boîte à lunch. Donc, l'idée, c'était vraiment, c'est ça, des sensibiliser, des conscientiser, mais évidemment, sous forme de jeu, sous forme ludique. Là.
Ouais. Ça prend la forme de labyrinthe ou de quiz?
Tout à fait, exactement. Donc, il y a différents. Il y a 8 niveaux de jeu, et à chaque niveau, à chaque plateforme, là, il y a un jeu différent où l'enfant est exposé, par exemple, à 2 choix d'aliments. Il doit distinguer quel est le meilleur choix, par exemple, celui qui contient le moins de sucre ajouté ou celui, par exemple, qui contient le plus de fibres alimentaires. Puis, pour pouvoir être en mesure de faire les bons choix, bien, il y a toujours un petit topo, une petite explication qui est donnée par un petit robot amusant qu'on a appelé Vitalité, qui explique aux enfants là, quels sont ces concepts-là. Évidemment, on a fait ça de façon simple, de façon imagée pour que les enfants comprennent bien, puis pour que ça rende ça amusant. Là. On ne voulait pas que ça soit lourd, là, que ça soit une information trop complexe, mais ça fait en sorte qu'en tout, l'enfant est en mesure de compléter le petit jeu en lien avec ça, puis en même temps de s'instruire, d'apprendre des choses là, sur la saine nutrition. Là, ouais.
L'application s'adresse aux enfants de 6 à 9 ans, mais pas uniquement aux diabétiques. C'est donc dire que n'importe qui peut télécharger l'application et en tirer des leçons, en fait.
Oui, tout à fait. C'est bon de le mentionner. Fait que oui, c'est sûr que nous, on travaille à Diabète Québec. On pourrait penser que c'est juste pour nos enfants diabétiques, mais non, pas du tout. C'est vraiment adapté à tous. Donc, là, on ratisse plus large à ce moment-là. Fait que oui, tous les enfants, là, peuvent y tirer profit là, de jouer à ce jeu-là, là, puis à s'amuser, ouais.
On vient tout juste de passer l'Halloween. Il y a beaucoup d'enfants qui ont fait la cueillette de bonbons et autres sucreries. Est-ce que c'est difficile de faire passer le message de la saine alimentation chez les enfants qui ont tendance à choisir par le goût davantage que par d'autres facteurs?
Ben c'est certain que les enfants, oui, ce qui va primer tout d'abord, ça va être le goût, ça c'est certain, mais ça reste que, bon, c'est comme là, il y a eu une fête, c'est une occasion spéciale, c'est important de mentionner que ces aliments-là, ils font partie d'une alimentation saine, même si c'est certain qu'ils procurent beaucoup de sucre, bon, ils ont plus de valeur nutritive, ça reste que dans une alimentation équilibrée, il y a une certaine place pour ces aliments-là qui sont plus des aliments d'occasion, qui font partie de notre alimentation courante, mais donc c'est important de ne pas catégoriser les aliments, puis que l'enfant qu'on lui apprenne que oui, à l'occasion, c'est possible de manger ça, de profiter de ce moment-là, de cette fête-là, puis de savourer les bonbons, les petites gâteries qu'on va se permettre, qu'on va manger. Le message qu'on donne, nous, les nutritionnistes, c'est vraiment de ne pas les interdire. Au contraire, on sait très bien que les interdits, souvent, c'est ce qui amène après...
Ça crée l'effet contraire.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est bon de passer les bons messages puis de laisser les enfants, évidemment, s'amuser d'en manger. Mais que si, finalement, la majorité du temps, l'enfant s'alimente bien, il a accès à des fruits, des légumes, des bons aliments sains, bien, il n'y a aucun problème parce que de temps à autre, il y a des petites gâteries là, sucrées, là, tout à fait.
Souvent, ce qu'on dit de privilégier, c'est des aliments qui n'ont pas été transformés. Il y a plusieurs informations informations utiles qui sont disponibles sur votre site internet diabète.qc.ca. Et c'est aussi possible de télécharger l'application pour tablette ou sur ordinateur directement sur le site internet. Merci beaucoup, Mme Saint-Jean, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci à vous de l'invitation. Au plaisir.
Ça fait plaisir. Et nous, on s'en va rejoindre Clotilde Essay, qui s'est entretenue avec une certaine Camille Parker. Peut-être que son nom vous dit quelque chose.
Alors j'accueille maintenant, cher Kevin et chers vous tous, Kevin, quelqu'un qui devrait forcément vous plaire beaucoup puisque c'est une sportive et c'est aussi une habituée de la radio. C'est pas la première fois qu'elle vient ici. Camille Parker, bonjour Camille.
Bonjour.
J'imagine qu'on a dû déjà vous le dire Camille, mais quand on fait une recherche sur vous, on tombe sur Camilla Parker.
Ouais, c'est pas tout à fait la même personne.
C'est pas tout à fait. Mais donc, c'est vrai, on tombe sur, sur la copine au prince Charles. Quoi.
Oui, effectivement.
Appelons-la comme ça, hein, parce qu'on s'est vu avant-hier, justement. Mais j'ai trouvé ça tellement drôle, j'ai dit, tiens, il faut que je lui dise qu'on tombe d'abord sur elle. Camille, bonjour, rebonjour. C'est ça, vous aviez déjà eu l'occasion de venir à deux ou trois reprises ici à Canalet. Mais là, cette fois-ci, je vous ai demandé de venir parce que vous êtes la porte-parole depuis déjà pas mal de temps de l'association Le Cœur et les Jambes.
Oui, effectivement.
Et tout récemment, c'est pour ça que j'ai eu envie peut-être qu'on en reparle de cette association-là. Il y a eu cette course qui a été organisée au mois d'octobre qui s'appelle la course, au témoin d'un doute, c'est le Tour du Mont-Royal-Brébeuf, édition 2017.
Oui, exactement.
Que vous n'avez pas faite cette année, mais que vous avez faite à d'autres moments.
Non, je n'ai jamais fait
jamais
cette
course-là
avant. Mais je voulais y aller cette année en tant que sporteur, mais je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, non.
Non, c'est vrai. D'abord, le cœur et les jambes, qu'est-ce que c'est que cette association?
C'est une association qui permet aux jeunes en situation de handicap de leur permettre de participer à des courses à pied à travers la région, mais surtout à Montréal.
Surtout à Montréal, mais en région aussi quand même.
C'est ça.
J'ai vu qu'il y avait
un peu
eu quelques...
Aussi.
C'est ça. Et alors, quand les personnes sont handicapées, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à cette association-là, il y a des gens, des adultes, qui ne sont pas handicapés et qui donc vont donner de leur temps, c'est bien ça, pour permettre à ces personnes-là de pouvoir bouger.
Exactement, oui.
Est-ce que c'est le thème central, hein?
C'est ça, c'est exactement ça. Le thème, c'est des adultes qui veulent faire participer les jeunes qui n'ont pas l'occasion de pouvoir courir peut-être jamais. Mm-hmm. C'est leur donner l'occasion de vivre cette expérience-là dans leur vie.
Et vous-même, on vous a aidé à une époque?
Oui, à partir de 2014,
c'est vrai?
On m'a accueilli dès le début de l'association. Et j'ai continué, et j'y participe encore.
Parce que, bon, on va préciser, hein, Camille, vous avez été obligée de subir l'ablation d'une jambe. C'était suite à un cancer, je crois.
Oui, exactement. C'est un cancer, un ostéosarcome de stade 4, le même cancer que Terry Fox avait.
OK, d'accord. Donc, maintenant, vous avez la jambe gauche qui vous reste encore.
Oui, exactement.
Et vous êtes une sportive accomplie, hein? Qu'est-ce que vous aimez comme sport?
J'aime bien la natation puis la course à pied.
Ouais.
Maintenant, j'ai une prothèse pour la course à pied.
OK.
Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Là.
Est-ce que c'est la même prothèse que celle qu'avait, comment il s'appelle, Pistorius?
Oui, exactement.
C'est vrai?
Sauf que lui, il avait son genou, moi, je ne l'ai pas.
Ah, d'accord. OK. Mais ça doit être quelque chose de savoir manier ça pour parvenir à courir à un moment donné.
C'est une adaptation.
Quel entraînement? Oui, c'est ça, adaptation. Mais une fois qu'on l'a... Eh bien, alors, on fait comme tout le monde, puis on fait des tours de piste.
Exactement,
et puis on court, hein, exactement. Alors, le cœur et les jambes, vous êtes porte-parole de cet assaut-là depuis combien de temps?
Depuis un an ou deux,
ouais,
même, je pense.
OK. Et vous avez déjà quand même vous-même participé à pas mal de courses.
Oui.
Notamment, avez-vous déjà fait un marathon?
Oui, j'ai participé au Marathon de Montréal.
Cette année, là?
Oui, cette année, les deux autres avant aussi.
D'accord. Alors là, comment ça se passe? Parce que j'imagine qu'il y a un outil on doit utiliser.
La Joëlette, oui.
La Joëlette. Parlez-moi de la Joëlette.
La Joëlette, c'est un fauteuil soit à deux roues à une roue.
Ouais.
C'est un fauteuil tout-terrain. On met l'enfant dessus et il y a deux, minimum deux adultes, un en avant, un en arrière qui pousse et qui tire la Joëlette.
Allez, pousse, tu sais. Ça me fait penser que tu as poussé le char dans la neige, mais là, c'est pousse.
Oui.
Mais ça n'a pas été évident parce qu'il y a des côtes, il y a des... En tout cas, il faut être drôlement bien entraîné. Ça ne peut pas être
même.
Des gens qui ne sont pas entraînés qui
mais,
font
mais
ça.
Mais l'hiver, hein. C'est pire.
J'imagine. Oui. Dans la neige, on en parle souvent. D'ailleurs, avec Kevin Breton, je lui demande toujours, mais comment vous faites quand je vois les gens qui sont en fauteuil roulant dans la neige, écoute, nous, on pousse un carrosse et puis on a du mal.
Ouais,
alors imaginez.
Les roues, ils tombent dedans, c'est pas facile.
Non, c'est ça, exactement. Hein. Alors donc, un marathon déjà, mais courir le marathon avec votre appareil, est-ce que vous l'avez déjà fait?
Au
moins en partie.
J'ai non? jamais couru. Dernièrement, les deux années dernières au Marathon de Montréal, j'ai couru 1 kilomètre à la fin.
Oui.
Et sinon, cette année, j'ai fait le Marathon de Montréal les 21 derniers kilomètres. Non, les 10 derniers kilomètres, en vélo à bras.
En vélo à bras.
Je les ai accompagnés comme ça.
Ah, oh, c'est sympa. Alors, qui dit main-d'œuvre, qui dit bénévole, dit besoin, bien sûr. J'imagine que l'association est toujours à la recherche de bons bras.
Oui.
Et de bonnes jambes.
Des jambes, surtout, comment qu'on les appelle. Les adultes, c'est les jambes. Les enfants, c'est le cœur et les jambes.
Oui, bien sûr.
Mais on est toujours à la recherche. Autant de jeunes que d'adultes pour faire un changement aussi, offrir la chance à d'autres jeunes et à d'autres adultes de vivre cette expérience-là.
Comment on s'y prend? On contacte l'association par Internet? Comment on fait?
Oui, on a un site Internet, mais on est souvent plus facile d'approche par Facebook.
OK, oui, bien sûr.
Vous pouvez aller voir notre page Facebook, Le cœur et les jambes.
Le cœur et les jambes. Et puis là, c'est facile. Puis on dit salut par message, par Messenger.
Exactement.
Salut, moi j'ai envie de pousser, j'ai envie de tirer, j'ai envie de donner, j'ai envie...
Oui, exactement.
OK. Et qu'est-ce qui est au programme de l'association pour les mois ou les années à venir?
À chaque année, vers le début de l'automne, on se rencontre tous ensemble. Et on fait le calendrier des courses à venir pour l'année qui s'en vient.
D'accord.
Je pense que cette année, on a environ 5 ou 6 courses au programme.
Ah, c'est quand même énorme, là. Parce que je pensais que c'était peut-être juste une ou deux par année, mais non, c'est 5 ou 6.
Non, environ 5-6. On fait souvent le tour du lac Brome, le marathon de Montréal. On fait aussi des courses avec MEC, Mountain Equipment Co-op.
OK.
On fait des courses avec eux aussi.
Et là, je ne me rends pas compte, il peut y avoir combien de participants?
À l'entour de la Joëlette, on peut être beaucoup cette année au Marathon de Montréal. Je pense qu'on était proche de 20 coureurs pour 3 jeunes, dont moi sur mon vélo.
Mais parce qu'il n'y a qu'une seule Joëlette?
Oui.
Ah, mais je pensais qu'il y en avait plusieurs. Mais
non,
alors,
on
du
a
coup,
juste
non.
une, malheureusement.
Ah, OK, parce que ça, je ne sais pas si vous le savez, mais est-ce qu'elles sont construites ici? Est-ce qu'elle a été construite ici au Québec?
Non, elle a été construite en France.
Ah, donc c'est pour ça. Puis ça coûte cher à faire construire, ça coûte cher à faire venir. Mais s'il y avait de l'argent, on pourrait peut-être en faire une deuxième.
Oui, ben on est toujours ouvert
aux dons,
hein? Oui.
Pour qu'il y en ait beaucoup d'autres.
Exactement.
Hein?
Ben, voilà. Justement, on a eu notre première parce que notre fondateur venait de France en 2014. Mm-hmm. Et avec des gens, des amis, des gens qui connaissaient à l'école de ses enfants, ils ont parti cette association-là.
Vous savez ce que vous devriez faire, Camille Parker? Vous devriez contacter Camilla Parker et le prince Charles. Ils ont un petit peu de sous, je pense. Ils ont mis un petit peu de sous de côté. Et vous pourriez leur dire, voilà, vous avez un homonyme. On aurait besoin de sous pour construire d'autres joëlettes.
On aimerait bien.
Ils craqueraient complètement, de toute façon, quand on vous voit le sourire et l'enthousiasme. Hein? Alors, pourquoi pas? Bon, enfin, moi, je vous lance ça comme ça.
On aimerait ça, c'est sûr.
Ça ne doit pas être bien compliqué à contacter, ça, Camilla Parker et le prince Charles. N'importe qui peut sûrement avoir accès au prince Charles.
Bon, on peut essayer.
On peut essayer, Camilla.
Ça ne coûte rien d'essayer.
Ouais, Camille, merci beaucoup d'être venue pour nous voir aujourd'hui. Voilà. Et puis, bonne continuation à l'association. Et vous qui nous écoutez, si vous avez des bons bras, des bonnes jambes, allez sur Facebook, Le cœur et les jambes, et inscrivez-vous donc. Salut.
On termine le premier segment de l'émission en vous parlant en termes juridiques. Ça va peut-être sembler complexe à prime abord, mais on vous promet qu'on a avec nous une spécialiste en vulgarisation juridique chez Éducaloi qui va faire en sorte qu'elle va rendre le tout le plus compréhensible possible parce que c'est un sujet assez important, comment se protéger et mettre à l'abri conjoint et enfant advenant une incapacité à prendre soin de nous. Effectivement, un sujet important. Et pour nous en parler, Maître Dominique Boutin, avocate chez Éducaloi, est au bout du fil. Bonjour, Maître Boutin.
Bonjour, Monsieur Breton.
Donc, je pense qu'on a tous déjà entendu les termes mandat de protection, testament, procuration. Est-ce qu'on peut les distinguer, faire la différence entre les trois tout d'abord pour être sûr qu'on se comprenne bien tous?
Bien, en fait, les trois documents dont on vient de parler, la procuration, le mandat de protection, le testament, c'est vraiment différents documents pour différents moments de la vie ou de la mort, là, dans le cas du testament. Mm-hmm. D'abord, la procuration, c'est un document une parole qu'on peut faire lorsqu'on a toute notre tête, mais qu'on voudrait que quelqu'un d'autre s'occupe de nos affaires. Par exemple, on a un immeuble à logement, puis on voudrait que quelqu'un d'autre s'occupe de ce dossier-là parce qu'on n'a pas le temps, ça ne nous intéresse pas. Donc, ça, c'est vraiment une procuration.
OK.
Dans le cas du testament, c'est prévoir les conséquences de notre décès. Donc, qui s'occupe de notre succession, qui vont être les héritiers, leur part d'héritage, etc. Et dans le cas du mandat de protection, là, c'est vraiment nommer une personne qui va s'occuper de nous, de notre bien-être, de notre personne, mais aussi de nos choses, donc argent, biens, maison, lorsqu'on est en situation d'inaptitude. Puis, juste mentionner qu'avant, le mandat de protection s'appelait le mandat en prévision d'inaptitude. Il n'y a pas très longtemps, on a changé de nom.
Avant, donc, c'était le mandat en prévention d'inaptitude. C'est le terme qu'on employait précédemment.
Exact. Puis, c'est un terme qui est encore utilisé par un peu tout le monde, mais c'est, mandat de protection, mandat en prévision d'inaptitude, c'est la même chose.
Pourquoi est-ce qu'il est important de prévoir et un mandat de protection et un testament? Est-ce que si on arrive à un stade où on juge qu'on n'est plus apte à prendre soin de nous et de nos biens, est-ce qu'on ne peut pas simplement se référer au testament?
En fait, l'inaptitude, c'est quelque chose qui va survenir quand on n'est plus en mesure de prendre des décisions ou d'agir pour nous-mêmes. L'inaptitude, elle peut survenir à tout moment, vraiment. Ça peut être un accident, la vieillesse, santé mentale, par exemple, quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer avancé mm-hmm. ou quelqu'un qui aurait un accident de voiture et un traumatisme crânien pourrait être en situation d'inaptitude. Donc, c'est pour vraiment prévoir ce moment-là. Le testament, on va essayer de le prévoir lorsqu'on a... Puis dans les deux cas, on devrait les faire lorsqu'on a toute notre tête. Pour prévoir un peu ça. Dans le cas du testament, c'est vraiment à notre décès là, les conséquences du décès.
Parce que de ce que je comprends, en fait, la distinction entre les deux, c'est qu'un testament, c'est que c'est un legs. On donne certains biens à des membres de la famille ou à son entourage, tandis que le mandat de protection va plutôt encadrer qui va prendre soin de nos biens jusqu'à un éventuel décès.
Exact. Puis aussi, le mandat de protection, ça permet de prévoir, par exemple, les soins de fin de vie ou l'hébergement qu'on désire avoir. Tu sais, quand on est en situation d'inaptitude, on a quand même notre bien-être. Oui, on doit s'occuper de nos biens si on a une maison. Si on a des enfants mineurs, lorsque l'inaptitude survient, ça peut être intéressant d'avoir nommé quelqu'un comme tuteur pour ces enfants-là aussi. Si on veut que nos volontés soient respectées, on peut aussi déterminer des instructions quant à l'utilisation de notre argent. Si on a une entreprise, par exemple, on peut aussi prévoir toutes sortes d'instructions à ce moment-là où on est simplement en situation d'inaptitude, mais on est encore en vie.
Maître Boutin, j'imagine qu'il n'y a pas nécessairement un âge précis sur lequel on devrait commencer à réfléchir à ce mandat-là, mais est-ce qu'on peut évaluer que quand on est en âge d'être propriétaire, par exemple, d'une maison ou encore d'un automobile, c'est un moment où on devrait commencer à réfléchir à ce genre de choses?
Bien, c'est pas nécessairement quand on a des biens. Comme je dis, le mandat de protection, il vise aussi à se munir d'instructions sur notre bien-être, sur nous-mêmes. Donc, c'est vraiment, étant donné que l'inaptitude peut survenir à tout moment, je pense que c'est dès qu'on a la majorité, à mon avis, on devrait commencer à songer à ce genre de choses-là. C'est-à-dire, si un jour l'inaptitude m'arrive, dans quelle situation j'aimerais être, où j'aimerais habiter, quels soins j'aimerais recevoir. C'est ce genre de questions-là qu'on doit se poser.
Oui, par exemple, si... avec toute la question sur mourir dans la dignité, là, les soins en fin de vie, est-ce que de nommer une personne va pouvoir nous permettre de décider, la personne va avoir le droit de décider si on est incapable de choisir par soi-même si on souhaite mettre fin à nos jours ou bien?
C'est pas tout à fait la même chose, on peut mélanger. Donc vraiment, le mandat de protection vise vraiment le moment où on est déclaré inapte, donc en situation d'inaptitude. En ce moment, l'aide médicale à mourir qui existe, c'est vraiment dans les cas où on est encore apte à prendre des décisions et qu'à ce moment-là, on voudrait peut-être procéder à des soins de fin de vie. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment une question d'aptitude à ce moment-là. C'est différentes situations, différents documents à ce moment-là.
Donc, ce ne serait pas possible, par exemple, que quelqu'un qui a été nommé dise « Ah ben moi, je connais bien mon papa ou ma maman, puis je pense que dans l'état où il est, il aurait préféré recevoir l'aide médicale à mourir ». Ça, c'est impossible.
Bien, c'est juste que ça va avoir probablement un autre nom, mais effectivement, dans le mandat de protection, on peut prévoir toutes sortes de soins de fin de vie, de soulagement de la douleur. Ça peut être prévu dans le mandat de protection. Il y a aussi un autre document qui existe, qui est les directives médicales anticipées, dans lequel on peut prévoir ce genre de choses-là au moment où on va être dans une situation d'inaptitude encore une fois.
Maintenant, la grande question, c'est souvent, puis là, j'imagine les gens qui nous écoutent en ce moment, qui doivent réfléchir, qui est-ce que je devrais nommer comme mandataire? Puis ce serait quoi leur responsabilité? C'est quand même une grande décision à prendre. Est-ce que vous avez des conseils à donner?
Bien, en fait, pour être mandataire, il faut être majeur, il faut avoir 18 ans et plus. Dans le cas qu'on veut nommer quelqu'un qui va s'occuper de notre bien-être, là, comme on a parlé des soins d'hébergement, ça doit être une personne physique. Donc, généralement, c'est quelqu'un de la famille, un ami, un conjoint, quelqu'un en qui on a confiance. On peut aussi nommer cette personne-là qui va s'occuper de nos biens, de nos affaires. Dans ce cas-là, les biens, on peut aussi nommer une institution financière qui pourra s'occuper de notre portefeuille, de notre entreprise, par exemple. Puis, il est aussi possible de nommer une personne ou plusieurs qui va s'occuper de nous pendant cette période d'inaptitude. Puis, en ce qui a trait à leur responsabilité, c'est sûr que les mandataires doivent respecter les volontés qui sont exprimées dans le mandat de protection, mais ils doivent prendre toutes les décisions pour le bien-être physique, psychologique de la personne, doivent gérer l'argent, par exemple, avec prudence, doivent agir dans le meilleur intérêt de la personne protégée.
C'est quand même encadré d'une certaine manière.
Exact, exact.
Puis ça, est-ce que c'est coulé dans le béton ou si une fois qu'on a un mandat, est-ce qu'on peut faire une mise à jour sur celui-ci après quelques années, par exemple?
Ben en fait, c'est généralement recommandé, surtout si notre situation change. C'est possible qu'on a nommé, par exemple, notre conjoint, puis on se dit, ben c'est encore mon conjoint, je veux encore que cette personne-là s'occupe de moi lorsque l'inaptitude va se pointer, mais si notre situation change, c'est assez recommandé de juste regarder un peu qu'est-ce qu'on a indiqué, puis voir si on a une autre position sur certains soins, par exemple, ou si on veut nommer quelqu'un d'autre, là, c'est important.
Si on fait affaire avec un notaire pour entreprendre ces démarches-là, ça en coûte environ 300 $, mais on peut aussi le faire devant des témoins avec un formulaire qu'on retrouve sur le site du curateur public. Ça fonctionne comment dans ce cas-ci?
Mais c'est ça, effectivement, il y a deux façons de faire un mandat. Donc, on peut y aller devant le notaire, qui est un professionnel du droit, donc il peut nous donner des conseils pour la rédaction de notre mandat de protection. Il y a aussi le mandat de protection devant témoin. Donc, effectivement, il y a un formulaire qui a été fait par le curateur public qui peut nous aider. On n'est pas obligé de suivre ce formulaire-là. En fait, là, c'est l'idée de remplir le mandat de protection ou de le rédiger puis de le faire signer devant témoin. Attention, les témoins ne peuvent pas être nommés dans le mandat, par exemple. Donc, ça ne peut pas être notre mandataire qui signe comme témoin. Mais c'est justement, le curateur public a mis en ligne sur son site d'ailleurs un nouveau formulaire qu'on peut remplir qui est assez facile à comprendre.
On va mettre les liens sur notre site Internet. Merci beaucoup, Maître Dominique Boutin, avocate chez Ducalois. On va également mettre le lien du site Ducalois sur notre site Internet. Merci beaucoup, Maître Boutin.
Merci, au revoir.
On sera de retour dans un instant. Retour à Aime la vie pour le deuxième segment de l'émission. Il sera tout en culture. On va avoir évidemment l'entrevue dont je vous ai parlé que Clotilde a menée avec la chanteuse Samuelle qui sera en spectacle au cœur du festival Coup de cœur francophone. Mais on commence l'émission tout d'abord avec une artiste photographe, Sarah Séné. Et le monde est petit, c'est un drôle d'hasard, puisque Sarah, qui est avec nous déjà en studio, vient de m'apprendre, là, comme ça, à brûle pour point, qu'elle connaît Samuelle, avec qui Clotilde s'est déjà entretenue. Mais bonjour, Sarah.
Bonjour, mais je la connais pas encore. En fait, je vais la photographier la semaine prochaine.
Parce que c'est votre métier, votre vocation, vous êtes photographe. Vous travaillez beaucoup avec la photographie argentique, le Polaroid. Et pour votre prochain projet, ou en fait, je sais pas s'il y a d'autres projets entre-temps, mais ce qui occupe votre horaire du temps ces temps-ci, c'est de créer une installation artistique qui va permettre de concilier deux concepts qui peuvent paraître un peu opposés à prime abord, soit l'art visuel et la déficience visuelle. Pourquoi avoir décidé de s'attaquer à ce défi particulier?
Ben c'est justement cette contradiction qui m'intéresse, puisque un appareil photo est conçu comme un œil. Donc j'ai justement envie de mettre en rapport la photographie et la déficience visuelle. Je trouvais ça intéressant.
Puis ça vous est venu comment, en fait, cette heureuse collaboration-là, là?
Ça m'est venu parce que j'ai réalisé un contrat photo pour une OBNL qui s'appelle Montréal Relève, qui est un programme qui s'appelle Vision Carrière, qui offre des stages à des adolescents déficients visuels. Mmh. Et je devais donc faire des photos d'une rencontre et j'ai entendu s'exprimer certains jeunes. Et ça a été pour moi un vrai coup de foudre, en fait, par rapport à au parcours de ces jeunes et à leurs envies professionnelles.
Oui, on connaît bien Montréal Relève, qui en fait permet l'intégration en milieu professionnel de personnes soit aveugles ou avec une basse vision. Ils font vraiment un excellent travail. On avait reçu d'ailleurs un stagiaire à Mi-Télé, à mon autre occupation d'animateur. Qu'est-ce qui vous a frappé chez ces jeunes-là pour vous donner le goût de vous embarquer dans un projet d'une telle envergure avec eux?
Ce qui m'a frappé, c'est la résilience de ces jeunes, c'est-à-dire que malgré ce qu'on pourrait penser être un véritable handicap au quotidien, qui n'est pas une mince affaire d'ailleurs, selon leur degré de vision, ils ont une envie professionnelle, ils ont une projection par rapport à l'avenir, ils ont des passions, ils sont ambassadeurs d'associations. C'est toute cette énergie, cette vie, cette vitalité qui m'a vraiment frappée.
Et la résilience, c'est un thème qui fait partie habituellement de vos œuvres depuis longtemps, là.
C'est vraiment le fil conducteur de tout mon travail photo, effectivement.
Là, vous allez monter cette installation artistique-là. Ça va prendre quelle forme? Ce sera des portraits de ces jeunes?
En fait, oui, c'est des portraits au Polaroid et en 35 mm en noir et blanc, en photographie argentique que je développe et tire moi-même dans un labo. Et puis en parallèle, il y aura des entretiens audio, en fait. Il y aura une forme sonore qu'on pourra entendre au sein de l'exposition en voyant les différentes séries de photos, qui sont donc des portraits qui se situent entre la photographie artistique et la photographie documentaire.
Et qu'est-ce que ces portraits ou ces photos-là vont transmettre? Quel est le message que vous voulez qu'il soit transmettre à travers cette exposition?
En fait, c'est la rencontre qui m'intéresse avec ces jeunes. C'est-à-dire que moi, je base tout le travail sur nos propres rencontres. C'est-à-dire que je les vois plusieurs fois, j'apprends à les découvrir, je les mets en confiance aussi, je leur explique tout à fait comment ça va se passer. Et on décide ensemble d'un lieu dans lequel on va faire le shooting photo. Et moi, je cherche toujours un lieu qui va leur correspondre. Par exemple, le premier participant, Alex, qui a 18 ans, est passionné de sport et notamment de natation. Mmh. On a fait les photos au sein d'une piscine qu'on a eu la chance d'avoir pour nous pendant tout un moment. Et moi, dans mon travail, habituellement, je fais vraiment des mises en scène très poétiques, très, très travaillées. Et là, voilà, j'ai essayé de faire la même chose, mais dans un lieu qui n'est pas commun par rapport à mon travail habituel.
Un environnement moins contrôlé que ce avec quoi tu es habitué de travailler.
Exactement, c'est sortir d'une zone de confort.
Est-ce que tu peux nous parler de, bon, je ne sais pas ces cobayes-là, là, mais ces modèles-là qui vont travailler avec toi, tu les as recrutés principalement par Montréal Relève ou...
Je suis passée par le réseau de Montréal Relève parce que je suis en relation avec Louise Legault qui était très intéressée par le projet quand je l'en ai parlé. Donc, c'est sûr que c'est un de mes partenaires en termes de diffusion. Après, j'ai fait un appel sur Internet et puis c'est surtout le bouche à oreille des gens qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, qui envoient mon appel et qui m'écrivent un courriel.
Et là, on en cherche encore, là, des gens.
Ah oui, on en cherche encore. Surtout des garçons.
Est-ce qu'il y a d'autres critères à part des garçons? Il y a un maximum d'âge parce que vous visez principalement les jeunes?
En fait, il n'y a pas vraiment de maximum d'âge. C'est vrai que je m'intéresse essentiellement aux adolescents et à ce que j'appelle les jeunes adultes parce que c'est la projection dans l'avenir, la construction notamment professionnelle qui m'intéresse.
Est-ce que vous pouvez nous parler? Est-ce que les jeunes, quand vous leur posez des questions sur leur ambition professionnelle, on sait que le marché du travail est rempli d'embûches pour les personnes avec une déficience visuelle. Souvent, le marché du travail est peu accommodant. Est-ce que ça revenait, ce thème de difficulté à l'emploi-là?
Pour l'instant, pas trop. J'avoue que je pense que pour l'instant, il y a cette envie, justement, comme je vous disais tout à l'heure, cette vitalité. On ne parle pas encore trop d'embûches véritablement, mais de craintes peut-être. Effectivement, par exemple, ce jeune dont je vous parlais, Alex, qui a envie d'être coach sportif ou s'orienter vers tout ce qui est kiné, enfin rapport au corps et au sport, il est très confiant. Peut-être qu'il va se heurter plus tard à des embûches à ce niveau-là, mais pour l'instant, il est vraiment dans cette envie et c'est ça qui le porte et qui les porte en général.
Le projet essaie donc de transmettre un regard un peu différent de ce qu'on est habitué d'avoir comme cliché de la personne avec un handicap visuel. Souvent, on va voir la personne avec les grandes lunettes fumées noires ou la canne blanche mise en évidence. Vous, vous essayez vraiment de donner une autre vision sur la personne aveugle ou avec une basse vision.
Exactement. Je pense que mon regard est bienveillant. C'est ça que j'ai envie de transmettre et... On m'a dit plusieurs fois, moi j'aimerais bien participer à votre projet, sauf que ça se voit pas quand on me regarde que j'ai des problèmes au niveau de ma vision. Et à chaque fois je leur dis, mais je cherche pas à ce que ça se voit. C'est la déficience visuelle est le fil conducteur de mon projet, mais finalement c'est pas ce qui sera le plus important dans ce projet.
C'est un peu un prétexte pour rencontrer ces personnes-là puis en apprendre sur leur histoire plus que sur leur handicap.
Exactement. Mm-hmm. C'est exactement ça.
Maintenant, parlez-moi de la conciliation parce que vous avez aussi comme objectif, évidemment, de rendre ce projet-là accessible aux personnes avec une déficience visuelle. Rendre une expo photo accessible à des personnes qui ne voient pas, c'est pas une mince affaire, mais c'est possible, mais vous allez vous prendre comment?
Exactement, c'est pas une mince affaire, mais justement, je parlais tout à l'heure rapidement d'une dimension sonore parce qu'à l'issue de chaque shooting, j'interview en fait avec mon micro les jeunes et je leur parle, j'attends qu'ils me parlent d'abord du shooting, de leur expérience, de comment ils l'ont vécu et du choix aussi du lieu qu'on a fait ensemble pour faire ce shooting puisque ça doit être à chaque fois un lieu qui les représente, dans lequel ils se sentent eux-mêmes parfaitement. Mmh. Et je leur demande aussi de me parler d'eux, de leur histoire et s'ils veulent de leur déficience visuelle. Alors ça, c'est la première dimension qui peut peut-être donner accès à des personnes qui ne voient pas parfaitement les images qui seront au mur. Et puis le troisième volet, finalement, c'est quelque chose de plus tactile puisque j'aimerais que la description de chaque image, de chaque photographie soit faite en braille. Donc là, vraiment pour des personnes qui ne voient pas du tout.
Ou encore, on imagine que la description va également être écrite en plus gros caractères pour les personnes qui auraient une basse vision, par exemple.
Ça pourrait être ça, effectivement, mais c'est une bonne idée, d'ailleurs. J'y avais même pas pensé, merci.
Des fois, on pense souvent au braille, ouais. Mais ouais. Malheureusement, c'est pas toutes les personnes avec une basse vision qui lisent le braille. C'est une minorité, souvent.
Exactement.
Souvent. Si on connaît des gens qui aimeraient participer à ce projet, comment ça se passe pour entrer en contact avec toi?
Ils peuvent m'écrire par courriel ou par Facebook. Simplement par mon site également.
SarahSene.com, SarahSene.com ou encore info@SarahSene.com. On va suivre ton projet de très près. Félicitations pour ce beau projet. Moi, je suis vraiment curieux puis ça fait longtemps. Je souhaite qu'on voit de plus en plus de personnes avec un handicap dans les démarches artistiques. Puis ça, c'est un bel exemple, en fait. Puis je pense que ça va vraiment servir de tremplin à d'autres artistes, éventuellement, qui vont pouvoir s'en inspirer. Donc, une chouette initiative. Merci beaucoup, Sarah.
Ben, merci à toi.
Puis là, on s'en va écouter donc Samuel, que tu vas prendre en photo prochainement lors de son spectacle, avec qui Clotilde a eu la chance de s'entretenir dans un instant. Toi le poète, la tête forte.
la cour te pointe du doigt. Mais le fou se moque du roi. On est fou avec toi. La révolte prit maison chez les fous et les sans nom qui tous unis devant le roi se tiennent nombreux.
Permettez, Kevin, que ce soit moi qui désannonce la jeune femme dont on vient d'entendre la chanson qui s'intitule « La révolte ». Et la jeune femme en question est auteur, compositeur, interprète. Elle s'appelle Samuel. Bonjour Samuel.
Bonjour Clotilde.
Elle est en studio, je suis tellement contente de la recevoir. Vous savez, Kevin, tout le monde, quand je pense à vous, Samuel, quand j'écoute cette chanson-là, quand j'écoute celle de votre premier album aussi qui est sorti là, en 2017, je me dis, oh, ça, c'est la bébête qui monte, qui monte, qui monte. Vous connaissez la chanson, c'est la bébête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. C'était
non.
Une petite chanson enfantine.
Non.
Bah, c'est une petite chanson enfantine pour dire que c'est quelqu'un qui monte, qui monte, qui monte, comme ça, au
ça
sommet de l'échelle.
Ça finit comment, cette chanson-là?
Ça finit bien.
OK.
Ou en tout cas, oui, mais ça finit beaucoup plus tard. Alors, okay. Non, elle monte, elle monte, elle monte. Et je me disais, je revoyais les images de la disque mm-hmm. cette année. Je ouais. revoyais Claude Pelgag disant, dis donc, en 20 ans, je pense que je suis la première. Je me suis dit, ben, l'an prochain, ça va être l'année Samuel.
Ah ouais? Ça
moi, j'y crois.
À voir.
Moi, j'y crois.
Ah OK, tant mieux. Moi, c'est pas pour ça que je le...
Non, je le sais, mais... Pour vous présenter, c'était ce que j'avais envie de dire. Okay. Parce qu'il y a une réelle, il y a une plume, il y a une personnalité, il y a la musique. Vous êtes multi-instrumentiste, vous pouvez remplacer ouais. à peu près tout le monde sur scène. Quand
ouais,
vous n'avez ouais, pas ouais. les moyens d'avoir des musiques, bah, ou
oui,
presque.
Oui, oui, je suis capable. De... Je joue pas aussi bien là, que les gens dans mon band, mais je suis capable de
ouais,
jouer.
Oui, je suis capable.
Je suis capable.
Samuel, effectivement, on vous a invité pour une raison bien précise. C'est que vous allez tenter, bah, c'est plus que tenter... de vous lancer dans une aventure que personne n'a faite avant vous, c'est-à-dire de faire un show complètement le mi-novembre, là, prochain,
ouais.
dans le cadre de Coup de cœur francophone, un show qui sera totalement, intégralement signé en ouais. langage des signes québécois, ce qu'on ouais. appelle en LSQ. LSQ.
Ouais.
Quelle idée!
Ouais, je sais.
Ça vient d'où?
Aïe, aïe.
Non,
mais c'est parce que...
Vous attendiez pas du tout, est-ce que je vous demande ça?
Non, mais en fait, c'est que quand l'idée est venue, ça me semblait si simple, puis finalement, ça a été une aventure assez complexe. Mais l'idée m'est venue, mais en fait, d'abord, je réfléchis beaucoup sur l'accessibilité en général. C'est déjà une réflexion qui m'habite depuis longtemps. Je pense que c'est important de réfléchir. Je pense que quand on n'a pas accès à des choses pour des... T'sais, avoir un handicap physique ou machin, ça t'empêche de... Je comprends pas, en fait, là, qu'on pense pas à ça collectivement, qu'on mette à l'écart des personnes de notre communauté sous prétexte qu'ils n'ont pas les mêmes habiletés que nous. Moi, ça me gosse vraiment beaucoup. Fait que c'est déjà la chose à laquelle je réfléchis déjà beaucoup. Mais l'accessibilité économique aussi, c'est très, très large, l'accessibilité. Fait que quand il y a une personne sourde qui est venue me voir après un spectacle pour me dire, tu sais, il y a personne qui traduit ses shows en LSQ, ça serait le fun, il y a toute une communauté qui aimerait vraiment ça, puis qui, tu sais, qui demande juste ça, pouvoir sortir de chez eux puis aller voir des shows aussi. C'est juste que, tu sais, il y a personne qui le fait. Puis elle m'a dit, elle m'a parlé de son expérience, puis ça, ça a juste wow. résonné vraiment avec déjà ma wow. réflexion. Fait que j'ai une petite équipe de prod, fait que j'étais allée voir mon équipe de prod, j'ai fait, moi, je veux faire ça, je veux qu'on traduise les trucs, puis en fait, comme, mais c'est pas possible tout de suite, mais je dis, mais aussitôt que c'est possible, je veux qu'on le fasse, puis j'ai un peu martelé ce truc-là, puis c'est arrivé. Puis là, dans les coups de cœur francophones, c'est un festival qui aime beaucoup présenter des spectacles qui sont uniques.
Oui.
Fait qu'il fallait trouver quelque chose qui sortait de ce qu'on fait d'habitude pour ce spectacle-là. Fait que là, c'est ça qui est venu en premier. Ben, c'est l'occasion de faire ce travail-là d'interprétation.
Puis, qu'est-ce qui a été si difficile que ça?
Ça a été difficile de trouver des gens.
Sûrement.
Pour faire l'interprétation. La première personne avec qui j'ai commencé à travailler finalement a quitté le projet. Je me suis retrouvée vraiment dans des délais vraiment très petit pour trouver quelqu'un. Finalement, j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré Annick puis Marie-France ils font partie de la famille maintenant. Là. Ça a vraiment été... C'est parfait, finalement, que je rencontre eux autres. Mais après ça, c'est que, veux pas, moi, je vis pas la réalité des personnes sourdes. Il y a beaucoup de choses qui étaient dans mon angle mort. J'avais pas pensé qu'il fallait...
Belle expression.
Ouais, ben c'est ça. C'est ça, un peu le danger d'essayer de faire quelque chose pour une communauté qui n'est pas la tienne. Tu comprends pas toutes les réalités. Fait que là, je me suis fait... pas critiquer, mais oui, critiquer, juste comme t'as oublié ça. Puis j'ai fait, OK, oui, c'est vrai, j'ai oublié ça, on va le faire. Fait que ça a été un projet.
Comme quoi, par exemple?
Réserver une section pour les personnes sourdes pour qu'ils soient sûrs de bien voir les interprètes.
Bien
sûr. Puis aussi faire traduire l'autre spectacle parce qu'on est jumelé avec un autre band, tu sais. Puis moi, j'ai focusé sur mon show à moi, de faire traduire mon show à moi, mais j'avais pas pensé que c'était.
Bien sûr.
L'autre show avant, il sera pas traduit. C'est un peu de la merde, tu sais.
Ben oui.
Fait que là, quand ils m'ont dit, tu sais, c'est un peu de la merde que l'autre show soit pas traduit, je fais, oui, t'as raison, c'est un peu de la merde. Fait que là, c'est approcher l'autre prod, faire, tu sais, que ça serait le fun, que machin. Puis là, les mettre en contact. Julie Aubé.
Julie Aubé.
Des Hey Babies.
OK. C'est,
j'adore beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Puis je suis vraiment contente. Puis elle était comme, aussitôt que j'ai proposé l'idée, elle a embarqué. Puis l'équipe de prod, tout le monde a embarqué super vite. Là. Ça peut être. C'est quand même plus de travail que je pensais.
Est-ce que vous avez l'impression, Samuel, on peut se tutoyer?
On peut se tutoyer.
Est-ce que tu as l'impression, Samuel, que ça va faire des petits, tout ça?
J'aimerais ça. J'aimerais ça. Je t'avoue, j'ai aucune idée. Tu sais, je sais pas si mes collègues vont emboîter le pas, mais j'aimerais vraiment ça parce que je me rends compte, tu sais, quand je vois comment Marie-France Pianic, ils donnent tellement de temps, tellement d'énergie, parce que ça les allume tellement parce que c'est tellement important. Puis comment la communauté, elle répond aussi vraiment beaucoup, tu sais. Puis je me rends compte, c'est vraiment un besoin, puis c'est vraiment triste que ces gens-là soient ostracisés. Puis, tu sais, aussi, je pense que c'est un public qui devient très fidèle, tu sais. Je pense que si on se donne la peine de traduire, on va se créer un public extraordinaire, tu sais. Puis je pense que les gens qui le font pas passent à côté de ça. Mais, tu sais, ça reste à voir, tu sais, c'est pas dans mon pouvoir. Moi, j'ai juste le pouvoir de faire mon show.
Et je me disais, Samuel, aussi, en regardant, d'ailleurs, je voudrais tout de suite préciser qu'il y a une vidéo qui circule en ce moment beaucoup.
On a fait notre clip,
voilà, vous avez fait un clip avec La Révolte, qui est la chanson qu'on a entendue un peu plus tôt. Et je voudrais préciser à tous nos auditeurs que le clip, évidemment, vous allez pouvoir le voir sur notre site internet dans son intégralité. Et donc, on vous voit chanter la version qu'on a entendue.
Je suis en train de chanter la chanson, puis il y a les deux interprètes autour de moi qui ont fait le travail de l'interpréter à quatre mains, qui est assez exceptionnel, là. Ils ont vraiment travaillé pour se synchroniser, pour toutes les deux interpréter la
chanson. Quel boulot!
Mais c'est magnifique. Puis on a tourné ça dans mon salon, là, avec quatre pièces.
C'est vrai?
Ah ouais, on n'avait pas de budget pour tout. Puis c'est ça. Fait que c'est cool. Puis c'était dans le but, c'était justement d'entamer la démarche. Puis éventuellement, là, j'ai parlé avec les interprètes, toutes les chansons de l'album vont être disponibles sur YouTube en LSQ.
Toutes les chansons, éventuellement.
Oui, éventuellement. C'est sûr que c'est un long travail, mais comme elles ont déjà fait le travail de traduction, mais ça va déjà, tu sais, comme... Il y a peut-être une ou deux chansons qui sont sur l'album qui sont pas dans le spectacle, fait que ça va être... C'est ça.
Est-ce qu'on peut rêver qu'en tournée, parce qu'il y a une tournée, bon, là, on parle du show de Coup de cœur francophone, ça va se passer à la Sala Rossa, à Montréal.
La salle la moins accessible physiquement, désolée.
Ben oui.
J'avais vraiment pas le pouvoir là-dessus.
Non, je suis convaincue qu'elle l'est, désolée. Si vous lui voyez la tête à Samuel, là, c'est comme elle a toute la tristesse du monde dans les yeux. Oh, elle est pas accessible, c'est vrai, il faut monter
c'est complètement pas accessible. Il y a comme trois étages, les toilettes sont pas accessibles, non, c'est fuck all.
C'est dommage pour cette salle-là.
C'est un
gros
problème à Montréal.
Bon, mais ça fait rien. À un moment donné, tel que je connais Samuel, elle va se battre pour aller présenter ça dans un endroit qui sera totalement accessible. Sinon, est-ce qu'on peut imaginer dans les autres salles, parce qu'il y en a d'autres, vous allez, le lendemain, vous êtes à Varennes, à la Maison Saint-Louis. Le 11, vous êtes à Bedford. Le 24 novembre, à Gatineau, tout ça. Est-ce que les interprètes vont suivre?
Non.
Non.
Faut comprendre que les shows que vous venez de nommer, c'est des shows qui ont été bookés déjà depuis genre 6 mois.
Mais oui, c'est ça.
Qui a un budget de prod qui est associé à ça.
Bien sûr.
Déjà, si on y va, ces shows-là, c'est des shows qu'on fait à deux parce qu'on n'a pas le budget d'y aller avec le band. Les interprètes, c'est un travail qui mérite rémunération.
Oui.
Donc, c'est ça, j'ai de la misère à avoir assez d'argent pour amener mon band au complet. Pour l'instant, c'est pas possible d'amener des interprètes avec nous sur la route. À Montréal, c'est une autre affaire parce qu'on n'a pas besoin de payer les déplacements ou les hôtels ou les machins. Fait que c'est sûr qu'aussitôt qu'on va jouer à Montréal, elles vont être là si elles le peuvent, mais elles ont aussi des emplois à temps plein, ces deux femmes-là.
J'imagine.
Mais ça, sauf que les tournées qu'on prévoit en ce moment pour dans un an et demi, ben là, on y pense, c'est ça.
Exactement, parce que Samuel, dans un an et demi, puis Samuel maintenant, là, j'aime mieux vous dire que ça va faire des petits, si vous me permettez l'expression, dans votre public, là. C'est sûr que ça va grossir énormément, Samuel. Si ce nom-là, bien sûr, vous dit quelque chose, oui, Samuel, on vous a connu par Granby. On vous a connu par les Francs ouverts.
Ouais.
Hein?
On vous les concours. Là.
Oui, là maintenant, ça y est, là, c'est la vie professionnelle. Tu sais, là, c'est ça. Là, c'est, là,
ça
c'est...
va, j'ai donné.
Elle a donné, qu'elle dit en baissant la tête. Ça, pourquoi ça a été dur à ce point-là?
Oui.
C'est vrai, ça vous a semblé pénible?
Je préfère pas en parler.
À ce point-là. OK, alors on oublie ça et on passe tout de suite à la vie professionnelle. Samuel, je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle qu'il faut à tout prix que vous alliez voir Samuel en spectacle, entouré de ces deux interprètes qui vont signer en langage des signes québécois l'ensemble, toutes ces chansons. Et puis, procurez-vous ce disque. Allez vous l'acheter. Tiens, quelle bonne idée. Allez acheter un album. Voilà une idée qu'elle est bonne. Procurez-vous le disque de Samuel. Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Vous allez où?
Parce que t'en penses?
Parce que je ne considère pas. Ben, en tout cas, peut-être pas au paradis.
Non, mais... ça ne m'intéresse pas.
Et sinon, alors, qu'est-ce qui t'intéresse? Tu veux aller où, Samuel?
Oh mon Dieu.
Qui t'intéresse dans la vie à part la musique? Et l'accessibilité.
Je fais rien d'autre en ce moment. Moi, c'est avoir du plaisir, puis grandir, puis devenir une meilleure personne, puis avoir, tu sais, laisser les endroits dans un meilleur état que quand je suis arrivée. Ça, c'est comme mon but dans la vie. Si je peux, genre, avoir un impact positif quelque part, c'est ça qui m'allume. C'est ça que j'ai l'impression de faire aussi avec mes spectacles, parce que je parle beaucoup dans mes spectacles, je fais beaucoup d'éducation. J'utilise le fait que je suis là pour échanger avec les gens d'une façon qu'on puisse tout le monde grandir, puis c'est ça qui m'allume beaucoup, tu sais. Puis tant que ça va être le fun de même, je vais continuer à le faire, puis après ça, je sais pas. Puis c'est ça que j'aime aussi, de pas trop savoir qu'est-ce qui s'en vient.
Mais c'est pour ça qu'on va te revoir.
Ah ouais?
Moi, je te le dis, ouais. Parce qu'aujourd'hui, en 2017, on a besoin de gens comme toi, Samuel.
Apparemment, mais c'est pas juste le public qui décide, c'est l'industrie aussi, puis c'est pas tout le monde qui trippe sur le fait que j'ai une grande gueule.
Ça, c'est vrai.
C'est pour ça que ça m'étonnerait que je gagne plein de trophées.
On verra.
On verra. Okay,
on s'en
suivre.
Parle.
OK.
Salut Samuel, 8 novembre.
8 novembre à la Salle Arassa.
À la Salle Arassa, merci.
Merci.
Je cherche des restes de toi dans la chambre froide et dans le piano droit. Je cherche l'écho d'une voix qui disait aime-moi. Je cherche des restes de toi. J'ai caché des morceaux de moi au fond de tes poches, dans ta grande sacoche. J'ai caché des mots maladroits sous la soie de ta peau. J'ai caché des morceaux de moi. Et je me parle tout seul quand je m'ennuie de ma California girl. Ma California girl. Des éclats de joie sous le sofa et dans les plis de nos draps. J'ai trouvé des traces de pas dans la neige à la télé. J'ai trouvé des éclats de joie. Je me saoule la gueule quand je m'ennuie de ma California girl. Ma California girl.
Que de magnifiques initiatives culturelles qui vont probablement permettre de changer les perceptions sur le handicap qui vous ont été présentées dans cette dernière demi-heure de l'émission, tant avec Sarah qu'avec Samuel, qui va offrir ce spectacle interprété en langue des signes québécoise à la Sala Rossa, c'est après-demain, donc le 8 novembre. Espérons que le message soit entendu de la part de la Sala Rossa également, qui rendra peut-être un jour sa salle accessible aux personnes en fauteuil roulant, parce que sinon, ben moi, je peux pas y aller, malheureusement. C'est ce qui conclut l'émission. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Aime la vie, même heure, même poste. J'ai très hâte de vous retrouver. On va notamment s'entretenir avec un chercheur de l'Université du Québec à Trois-Rivières pour nous parler de comment la technologie peut venir en aide aux personnes avec une déficience intellectuelle qui veulent vivre de manière autonome chez eux, dans leur maison, dans leur appartement. C'est deux mythes hein, qu'on travaille à casser, le fait que les personnes avec une déficience intellectuelle ne peuvent pas vivre seules et que les personnes avec une déficience intellectuelle ne peuvent pas utiliser la technologie. Ben non, il y a une équipe de chercheurs qui démonte ces deux mythes-là en même temps avec un projet. Ça va vraiment être intéressant. Clotilde, de son côté, elle va s'entretenir avec Steve Charbonneau, le directeur général de la Fondation des sports adaptés. On va également parler de théâtre, de culture et de bien d'autres belles choses. À la prochaine émission de Aime la vie. D'ici là, portez-vous bien et gardez le sourire.